De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un président devrait-il dire ça? Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. À la une ce matin, les mots d'Emmanuel Macron qui choquent l'ensemble de l'opposition en plein examen du pass vaccinal à l'Assemblée. Récit d'une soirée enflammée et témoignage d'une non-vaccinée dans un instant bouleversée par les propos du président, sur lesquels on reviendra ensuite avec votre invité Nicolas.
Oui, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, également monsieur autorité dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Il est à notre micro dans 20 minutes avec Léa Salamé. Appelez-nous 01 45 24 7000.
Un TER sur 10 à l'arrêt. La grande désorganisation a commencé à la SNCF, mais pas seulement à cause du Covid, on va le voir. Dans ce journal aussi, les victimes de la dépakine contre Sanofi, décision judiciaire cruciale attendue aujourd'hui. Donald Trump, un an après l'attaque du Capitole, une commission d'enquête engrange les charges contre lui. Regardez autre chose que la route en conduisant, la voiture autonome et le système du français Valeo en majesté au Grand Salon de l'Innovation de Las Vegas. Et puis 40 concerts pour 40 bougies, le club de jazz parisien, le Sunset, fête son anniversaire dans sa cave devenue mythique.
France Inter.
Regrettera-t-il ses propos, comme d'autres qui ont choqué ces dernières années? Emmanuel Macron, interrogé par des lecteurs du journal Le Parisien sur les opérations déprogrammées dans les hôpitaux pour laisser la place aux malades du Covid largement non vaccinés. Voici ce qu'il répond. Les non vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie du pass vaccinal. Compliquer la vie des 10% de Français qui refusent le vaccin, comme Mathilde, 30 ans, qui a extrêmement mal pris les propos du président.
J'en ai tremblé, j'étais meurtrie, très blessée. Les emmerder jusqu'au bout, je me demande comment est-ce que c'est possible en fait de parler comme ça quand on est président. Mon président, vous savez, c'est pas notre père, mais c'est le père de la nation et on a l'impression que quoi qu'il arrive, il nous défendra tous. Et là, j'ai été mais lâchée. Et j'avoue que oui, j'en ai eu, et encore maintenant, j'en ai les larmes aux yeux. Pourquoi il nous en veut? Les 5 ou 6 millions de gens qui ne sont pas vaccinés, ce n'est pas pour tenir tête au président, c'est pas une façon de montrer qu'on est des rebelles, c'est parce qu'on a des craintes, on est dans une détresse profonde. On peut entendre cette inquiétude-là. Elle n'est pas délirante, elle est légitime. J'aurais aimé qu'il nous parle sur un autre ton. Et peut-être que... voilà, j'aurais fait la peur au ventre avec des doutes comme d'autres l'ont fait. Mais aller me faire vacciner après ces propos-là, mais jamais de la vie. Vraiment, je suis choquée. Mais choquée, c'est pas anodin. Il faudrait que Macron se rende compte de ce qu'il a dit.
Voilà, l'émotion d'une non-vaccinée interrogée par Farida Noir après cette déclaration d'Emmanuel Macron que ses troupes vont devoir assumer, comme le fait déjà Christophe Castaner, président des députés marcheurs à l'Assemblée.
Le président de la République parle franchement, tant mieux. Et on a besoin de cette franchise. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous interrogez au moment où on se parle, des personnels soignants qui sont dans des hôpitaux, dans les services des urgences ou de réanimation, ils seront les premiers aussi à vous confirmer que le président de la République a raison, qu'une petite minorité, une toute petite minorité, met en risque notre système hospitalier. Moi, mon sentiment est que les non-vaccinés, il faut leur sauver la vie malgré eux. Et quand je vois que hier, par exemple, on a 46 000 Français qui ne s'étaient pas vaccinés pour leur première dose, qui se sont fait vacciner, bah c'est bien. Mais il faut encore accélérer.
Christophe Castaner sur France Info, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. La phrase a fait l'effet d'une bombe à l'Assemblée hier soir en plein examen du pass vaccinal. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Les débats, une nouvelle fois, ont été suspendus après 3 heures de grosses tempêtes.
Et le feu a pris sur tous les bancs. Christian Jacob à droite, David Habib chez les socialistes, pourtant tous deux favorables au pass vaccinal.
Monsieur le ministre, est-ce que conformément à la volonté du président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous avec pour seul objectif d'emmerder les Français?
Un président de la République, de par sa mission, n'a pas à emmerder les Français.
Olivier Véran en face, bien seul, se débat comme il peut.
Si vous lisez en détail l'intervention du président de la République dans son interview au Parisien, vous verrez que l'intention est avant tout une intention de protection de la population.
Mais la tension continue de grimper.
Il s'agit, permettez-moi cette métaphore, d'un Benalla sanitaire.
Le communiste Sébastien Jumel et toutes les oppositions en furie.
Laissez-moi 2 minutes. On peut s'écouter 2 minutes.
Les suppliques du ministre de la Santé n'y font rien. Le patron des députés LR, Damien Abad, revient à la charge.
Les propos du président de la République sont des propos indignes, des propos irresponsables, des propos méprisants. Nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions et nous demandons la venue du Premier ministre.
Jean Castex ne viendra jamais. Fin de partie sifflée à 2h du matin. Emmanuel Macron voulait cliver. C'est réussi, son pari, que la réaction des 90% de Français vaccinés soit inversement proportionnelle à celle de ses adversaires politiques.
Simon Le Baron pour le récit d'une soirée de tumulte. Les députés reprendront les débats sur le pass vaccinal à partir de 15h aujourd'hui. Ils ont réussi à s'entendre hier avant la tempête sur les enfants et les ados de moins de 16 ans qui seront exemptés du pass pour les activités extrascolaires et périscolaires. Ils devront en revanche prouver qu'ils sont vaccinés à partir de 12 ans pour aller au restaurant ou au cinéma. Hier, de nouveau, plus de 270 000 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid, un record. 3 000 patients sont entrés à l'hôpital et 297 y sont morts. Et puis, comme on s'y attendait, la vague Omicron désorganise certains secteurs. Trop de travailleurs absents. Le trafic des TER, par exemple, est perturbé. En moyenne, un train sur 10 ne roule pas cette semaine à cause de l'épidémie. Cyril Ardo, mais c'est un tout, il n'y a pas que ça.
La direction de la SNCF pointe certes du doigt la situation sanitaire, mais il y a également quelques problèmes de maintenance, des soucis liés à la météo ou encore localement des mouvements sociaux. Résultat, en moyenne, 7% des trains sont supprimés cette semaine, mais dans certaines régions, c'est plus. 10% des TER ne circulent pas, par exemple dans le Grand Est ou dans les Hauts-de-France. C'est même 15% en Normandie. Mais là, la situation est encore différente. L'entreprise ferroviaire explique avoir pris les devants. Philippe Lefebvre est le directeur de la production sur le réseau SNCF dans cette région. Il répondait à France Bleu Normandie.
On a vu des évolutions télétravail. Voilà, on aura à peu près 30% de moins de clientèle. En tablant sur un plan de transport qui permet de produire 85% des trains, on a une certaine marge. Donc on structure un plan de transport un peu allégé, mais il y a toutes les chances qu'on puisse l'assurer dans de bonnes conditions et que nous n'ayons pas à gérer des suppressions au dernier moment.
En Normandie, c'est environ 70 trains chaque jour qui restent au garage. La SNCF affirme que ce sont principalement des petites lignes qui sont concernées, intra-régionales la plupart du temps. Enfin, l'entreprise explique qu'une partie des TER annulés sont remplacés par des bus de substitution.
À l'étranger, record mondial de contamination aux États-Unis, près d'un million de nouveaux cas positifs en 24 heures. Et puis pour la deuxième année, le carnaval de Rio n'aura pas lieu.
Il est 8h08, Florence, c'est le tournant qu'attend les victimes de la dépakine.
Aujourd'hui, le tribunal de Paris doit dire si leur plainte collective contre le laboratoire Sanofi est recevable. Jusqu'à 34 000 enfants aux séquelles parfois très lourdes à cause de ce traitement contre l'épilepsie que leur mère a pris pendant la grossesse. Que savait Sanofi des dangers de son médicament et à quelle date? C'est l'enjeu de cette affaire. Première action de groupe dans le domaine de la santé en France. Véronique Julia, il en va de l'indemnisation des victimes.
L'association représente plus de 3 700 familles et près de 8 000 enfants. Pour elle, la recevabilité ne fait pas de doute. Les dossiers sont solides, mais c'est l'étape d'après qui la préoccupe. Si l'action est jugée recevable, en effet, le tribunal va définir dans la foulée les critères de rattachement des victimes. Ce sont les critères qui seront retenus pour examiner ensuite les dossiers individuels de chacun. Selon leur année de naissance et la nature du préjudice subi, Marine Martin, la présidente de l'association des victimes, redoute que certains soient exclus.
Si le juge décide que les critères de rattachement, c'est par exemple des enfants nés après 2005, ça exclura beaucoup de victimes, comme ça a été le cas pour moi au tribunal administratif avec mes deux enfants nés en 99 et 2002. Ils ont dit oui, c'est bien la dépakine qui est responsable. Par contre, pour les troubles neurocomportementaux, Sanofi ne savait pas avant 2005 et l'État non plus, donc on ne vous indemnise pas.
Selon les critères retenus, les victimes pourraient toucher de quelques milliers à plusieurs millions d'euros d'indemnités. Si l'action de groupe est jugée recevable, elle sera porteuse d'espoir aussi pour d'autres actions de ce type dans le secteur de la santé. Commercialisée depuis 1960, la dépakine ou valproate de sodium serait responsable de malformations chez 2 à 4 000 enfants et de troubles neurodéveloppementaux chez 16 à 30 000 d'entre eux, selon des estimations de l'assurance maladie et de l'agence du médicament.
Véronique Julia, c'est bien une enquête terroriste qui commence après l'explosion d'un véhicule sur le Dakar en Arabie Saoudite jeudi dernier. Le parquet national antiterroriste s'en est saisi. Le pilote français Philippe Boutron a été grièvement blessé à une jambe. Finalement, il ne parlera pas demain. Donald Trump avait prévu de donner une conférence de presse un an jour pour jour après l'attaque du Capitole par ses partisans. L'ancien président, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite, renonce à ce qui ressemblait à une provocation, alors qu'une commission parlementaire enquête sur ses responsabilités, Claude Guibal, dans ce qui restera comme une tache dans l'histoire de la démocratie américaine.
Presque un an après l'attaque du Capitole, le vertige est toujours là et l'Amérique cherche encore à comprendre comment une telle attaque a eu lieu. Les dizaines de milliers de vidéos amateurs et professionnels, les mails, enregistrements, témoignages recueillis par la commission d'enquête ont commencé à remonter la trame. La façon dont Donald Trump et sa garde ont, avant même l'élection, chauffé à blanc leurs partisans pour les convaincre qu'un complot gigantesque était à l'œuvre pour empêcher une réélection, qu'une défaite ne pourrait s'expliquer que par une fraude massive. Puis l'élection, le refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite et la mobilisation par la présidence de toutes les ressources judiciaires et administratives pour faire annuler les résultats, les pressions, les limogeages, toutes les portes se fermant jusqu'à cette ultime option, empêcher la certification du vote par le Congrès le 6 janvier. L'enquête a révélé les éléments de préméditation, les stratégies de prise du bâtiment par les milices d'extrême droite, puis ce dernier rassemblement. Près de la Maison Blanche, Donald Trump appelant la foule à marcher vers le Capitole. La suite, le chaos restera dans l'histoire. Un an après l'attaque du Capitole, un Américain sur trois croit toujours que l'élection a été truquée.
Et direction Las Vegas, à présent au premier jour du grand salon annuel de l'innovation grand public. On y trouve tout ce qui fera peut-être un jour notre quotidien connecté, avec des Français comme chaque année, dont l'équipementier auto Valeo et son système prometteur pour l'industrie de la voiture autonome, Fabien Cazot.
Le véhicule autonome à Las Vegas, une vitrine pour la recherche automobile française, en particulier pour l'équipementier Valeo. Souvent, ce sont les constructeurs qui communiquent sur les innovations embarquées à bord de leurs véhicules. Mercedes, en l'occurrence, l'a fait le mois dernier pour son système LIDAR, un sigle en anglais traduisible par télédétection laser. Mais l'invention est bien française, rappelle le directeur recherche et développement de Valeo, Geoffrey Boucaud.
C'est en fait une sorte de super radar qui envoie de la lumière, qui est reflétée et qui permet d'établir en temps réel une cartographie de l'environnement du véhicule en trois dimensions pour pouvoir identifier des objets, des obstacles, une voiture, un piéton. Pour la première fois, des véhicules vont atteindre le fameux niveau 3 d'autonomie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déléguer la conduite, jusqu'à aujourd'hui une soixantaine de kilomètres heure, faire vos mails, regarder votre téléphone et ne plus conduire.
Le système sera commercialisé à partir de 2024, mais des niveaux supérieurs d'autonomie sont déjà à l'étude, en particulier celui qui permettra d'atteindre la vitesse de 130 km heure sur autoroute. La voiture étant censée freiner en toute sécurité si une anomalie est détectée, le conducteur pouvant de toute façon reprendre à tout moment le volant s'il le souhaite.
Et à l'heure de la voiture autonome, qui utilise encore un agenda papier à renouveler en ce mois de janvier, les marques Exaconta et Covadis en sortent 3,5 millions chaque année, 100% made in France. Le papier est produit à Clairefontaine dans les Vosges, puis imprimé à Pantin avant d'être assemblé en plein Paris, quai de Gemap, dans le 10e arrondissement. Reportage signé Agnès Soubiran.
Si vous passez sur le canal Saint-Martin, vous verrez une grosse bâtisse type Eiffel. Bâtiment en briques rouges, très typique, et on a une vie à l'intérieur.
Cette vie, Dimitri Pavlika, directeur de la production, la partage avec une centaine de salariés qui se relaient de 7h à 19h sur ce site de 8000 m². Jella est chargée ce jour-là de préparer les bordereaux d'identification des agendas.
Là, je suis en train de régler les cylindres, parce que quand ça sort, c'est un peu de travers, donc je re-règle les cylindres, et je plie, après je mets dans les cartons. Et après, ça monte au troisième pour le conditionnement.
Un peu plus loin, les agendas 2022-2023 sont déjà en préparation. Chaque année, le nombre d'agendas vendus diminue. Dimitri Pavlika parle d'une érosion.
On est vigilant. Cette érosion est suffisamment lente pour ne pas être inquiétante, mais c'est un courant suffisamment puissant pour devoir être forcément analysé et anticipé.
À la tête du département commercial des agendas Exaconta, Florence Breton-Romia évoque de son côté la nécessaire adaptation.
On est passé d'un objet d'organisation qui a trouvé son petit frère dans un téléphone, un ordinateur. Et on a gardé toute la partie extrêmement affective. Quelle pièce de théâtre on a vue, dans quel restaurant, quels amis on a vus. Enfin voilà. En fait, c'est un support d'écriture, c'est un carnet millésimé.
Et pour s'adapter davantage encore aux nouveaux usages, le groupe propose désormais des répertoires de mots de passe.
Ah bah c'est bien pratique. En Coupe de France, c'est Lens qui ira en huitième de finale et pas Lille éliminée au tir au but. Lens qui rencontrera Monaco. Pour le PSG, ce sera Nice et Marseille-Montpellier pour les principales affiches sorties du tirage au sort des huitièmes hier soir. Le match le plus savoureux, ce qu'on aime en Coupe de France, ce sera Bergerac, club de National 2 contre les Verts de Saint-Etienne en Ligue 1. Enfin, 40 ans, un bel âge pour un club de jazz. L'incontournable Sunset à Paris fête son anniversaire tout le mois de janvier en 40 concerts avec 40 légendes qui ont fait son histoire. Le Sunset, presque né par accident en 1982, est devenu au fil des ans une référence du jazz dans le monde entier. Amélie Perrier.
Au départ, c'était un restaurant tenu par Jean-Marc Porté. Son fils, Stéphane, qui prendra la suite, était alors adolescent.
C'était un restaurant qui s'appelait les Diables Verts à cette époque-là, qui était la cantine de beaucoup d'artistes comme Coluche, Higelin. Et un jour, il a eu l'idée de fabriquer ce lieu qui était en dessous, qui était au départ une remise, pour en faire un bar américain. Mais il y avait tellement de musiciens qui gravitaient autour du lieu qu'il a décidé, il s'est fait convaincre par les musiciens d'en faire un club de jazz.
Très convaincant, car Jean-Marc Porté, pas vraiment connaisseur de jazz, s'entoure de programmateurs à l'affût des stars en devenir.
Il y en a tellement, Brad Meldo, Avishai Cohen pour les étrangers, Didier Lockwood, Richard Galliano.
On citera encore Rhoda Scott, l'organiste aux pieds nus, devenu une habituée du Sunset.
C'est mon club préféré de Sunset, parce que il y a une ambiance unique.
Car l'on se sert dans cette cave voûtée d'une capacité d'une centaine de spectateurs.
Les gens sont juste presque sur mes genoux, mais ça n'a pas l'air de les gêner, et moi ça ne me gêne pas.
Aujourd'hui, 750 concerts sont donnés chaque année dans les deux salles du club. Alors quoi de mieux qu'une série de 40 soirées uniques jusqu'en février pour souffler les bougies d'un club plus vivant que jamais.
Avec une soirée exceptionnelle d'anniversaire délocalisée pour l'occasion au Théâtre du Châtelet. Ce sera le 28 janvier.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Oh, l'ambiance a changé, Marie-Pierre.
Eh oui, Nicolas, dès ce matin, on sent la différence, hein, car le vent nord-ouest s'est engouffré derrière la perturbation, faisant chuter le mercure. Et ce matin, on retrouve des petites gelées. Attention au verglas. Au plus bas, il fait moins 2 dans l'Orne, moins 1 à Fontainebleau, 0 à Niort, mais aussi sur les Ardennes ou en Lozère. Pas plus de 2 à Bordeaux et Quimper, 3 à Paris, mais 13 à Ajaccio. Et côté ciel, vous allez voir le soleil se lever sur les trois quarts du pays, avec encore un peu d'instabilité, quelques flocons sur le relief du Jura, des Alpes au Massif central, aux Pyrénées, puis autour de la Méditerranée. Année, le Mistral et la Tramontane soufflent déjà à 100 km/h, mais en Corse, le ciel reste chargé, donnant quelques averses.
Et c'est plus ensoleillé cet après-midi.
Oui, dans le nord et l'est, le ciel va alterner entre de belles éclaircies, quelques nuages. Le soleil dominera près du littoral atlantique et dans le sud-ouest, au golfe du Lion. Le Mistral et la Tramontane vont se renforcer jusqu'à 110 km/h en basse vallée du Rhône. L'instabilité persistera sur les Alpes du Sud et en Corse. Et en journée, le mercure va encore chuter. Par exemple, à Tarbes, vous aurez 7 degrés, alors qu'hier il faisait 22. Au plus bas, vous aurez 4 à Langres, 6 à Nevers et à Lille et à Lyon, 7 à Paris, 8 à Rennes, 10 à Biarritz, comme à Perpignan, 11 à Marseille et 15 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre.
France
Inter, à tout à l'heure. Il est 8h18, géopolitique, Pierre Aski.